Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que le Dieu de la liberté, le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous accueillent en sa grâce, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Aimons-nous les uns les autres pour confesser d'un cœur unanime la foi de l'Église universelle. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Qui a fait les cieux et la terre.
Prions. Nous ne savons pas prier comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre faiblesse. Nous ne savons pas attendre comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre impatience. Nous ne savons pas pardonner comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre impuissance. Nous ne savons pas espérer comme il faut. Esprit Saint, viens au secours de notre incrédulité. Tant de choses encore nous restent cachées. Esprit Saint, viens au secours de notre aveuglement. Esprit Saint, viens au secours de notre infidélité. En Christ, accorde-nous le pardon. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Dieu Tout-Puissant nous envoie son Esprit pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Je vous lis le psaume 130. Chant des montées. Des profondeurs, je t'appelle, Seigneur. Seigneur, entends ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? Mais tu disposes du pardon et l'on te craindra. J'attends le Seigneur. J'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole. Mon âme désire le Seigneur plus que la garde ne désire le matin, plus que la garde le matin. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat, c'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Chères sœurs et chers amis, voilà encore une fois, vous me donnez l'occasion d'approfondir un psaume, donc ce psaume 130, merci pour ce chemin avec vous. Alors voici un psaume de désir, d'attente et d'espérance. 8 versets seulement. De nombreux verbes qui le reflètent, ce désir. Je t'appelle, j'attends, j'espère, mon âme désire le Seigneur. Alors le psalmiste nous emmène dans un mouvement de vie parce qu'un désir témoigne qu'on est vivant. Pourtant, quand j'ai lu ce psaume au début pour préparer cette méditation, je me suis dit, tiens, c'est le De Profundis. C'est-à-dire, vous le savez mieux que moi, ce début en latin qui est ancré en nous, les profondeurs. Et ces profondeurs avec lesquelles commence le psaume ont été souvent décrites comme les profondeurs de la mort. Et dans l'Église catholique, ce psaume est associé à la prière pour les morts. Mais en recherchant les utilisations du mot hébreu, qui est dans ce texte, eh bien, j'ai vu qu'il y avait un autre mot pour dire l'abîme de la mort. C'est donc pas de ça dont il s'agit ici, il s'agit plutôt de la profondeur physique, la profondeur d'un puits, ou bien spirituelle. Nous savons que ce début de psaume a inspiré beaucoup d'écrivains, de compositeurs. Les profondeurs. Je pense que chacun et chacune d'entre nous, nous savons ce que c'est. Des passages difficiles où la vie nous paraît lourde, où nous ne savons pas dans quelle direction aller. Ces périodes où nous souffrons physiquement, moralement, spirituellement. Les profondeurs peuvent être ces moments où nous ne savons pas où est Dieu, où nous ne l'entendons plus et où la pire des situations est de s'en sentir séparé. Mais de ces lieux, le psalmiste appelle et supplie Dieu de l'écouter. De n'importe quel lieu, on peut appeler Dieu, surtout quand on a l'impression qu'il n'est pas là. Souvenons-nous du début du psaume 22, repris par Jésus sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Notre sensation d'être sans Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. La supplication dans ce psaume s'adresse directement à lui pendant les 4 premiers versets. « Je t'appelle, entends ma voix. » Il y a comme une exigence. Et puis, au verset 23, un autre thème arrive, celui des fautes. On les retrouve aussi au verset 8 pour parler des fautes d'Israël. Alors je me suis posé la question, faut-il toujours faire un lien entre les fautes et la souffrance. Dans l'Ancien Testament, c'est en effet la théologie la plus courante et contre laquelle Jésus s'est battu. « Ce n'est pas à cause de vos fautes que vous souffrez », va-t-il expliquer à tous ses auditeurs. La souffrance n'a pas besoin d'être alourdie par un sentiment de culpabilité. Elle est déjà assez difficile à supporter comme ça. Et dans ce verset 3, un verbe signifie « se tenir debout ». Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui se tiendra debout ? Oui, notre Dieu a besoin de nous debout et non pas accablés par la culpabilité. Et ensuite, le psalmiste le dit avec soulagement, « Mais tu disposes du pardon ». Alors peut-être on peut aussi souligner ce phénomène. Le psalmiste est dans le désir de Dieu et on peut dire que plus on s'approche de Dieu, eh bien plus on prend conscience de nos limites humaines, de nos incohérences. Quand on se rapproche de Jésus qui est lumière du monde, eh bien nos ténèbres sont révélées, mais en même temps elles reculent. Le psalmiste continue. Tu disposes du pardon et l'on te craindra. Alors cette crainte qui revient bien souvent, eh bien elle est souvent mal comprise, en particulier par beaucoup de chrétiens, parce que cette expression sous-entend qu'on devrait craindre Dieu, et on s'en fait alors une image distante, parfois terrible, sous une image de juge souvent. Alors, quand on se remet dans le contexte de l'Ancien Testament, de cette écriture, eh bien, cette crainte était le respect normal dû à la divinité. Mais notre incompréhension vient de ce que Jésus incarne une proximité nouvelle avec le Dieu Père. Par Jésus, le Père se relie à nous dans notre humanité, et non seulement Jésus vient redire le pardon, que le pardon nous est offert, mais en plus il révèle un Dieu Père qui nous aime et qui se fait proche de nous. Alors ce détour par les fautes n'a baissé en rien l'attente du psalmiste. Qui reprend de plus belle ? J'attends le Seigneur, j'espère en sa parole. Et puis dans ces versets, le sujet n'est pas un simple jeu, mais c'est comme s'il parlait à la troisième personne de lui-même. C'est l'être ou l'âme qui attend, la nefesh en hébreu. Mon âme désire le Seigneur. La personne complète est tendue vers Dieu. Son désir la prend entièrement. Et le psalmiste se compare à la garde qui surveille la ville pendant la nuit. On ne connaît plus ça aujourd'hui chez nous, mais ça nous fait comprendre qu'il y avait des remparts et il y avait la garde qui surveillait. Que personne d'ennemi n'entre. Et on peut imaginer cette garde fatiguée, lasse d'attendre, impatiente de voir le jour arriver, jour qui signifie le repos. Et dans ces répétitions, on a entendu dans le psaume, il y a des répétitions, et bien ça fait partie de la poésie hébraïque. Elle montre l'insistance du désir. Et dans ce désir et dans cette attente, il n'y a pas d'autre objet que Dieu. Le psalmiste attend la présence du Seigneur et au verset 5, il attend sa parole. Là aussi, il y a un parallèle. Et quand il y a un parallèle, eh bien, on peut comprendre que finalement, Dieu est parole. Ce psaume fait partie des chants des montées. Alors, c'est quoi les montées ? Eh bien, les pèlerins qui allaient à Jérusalem montaient vers Jérusalem, qui est à peu près à 1000 mètres. Et ces pèlerins se préparaient sans doute à entendre la parole. Alors, sans doute la parole de la Torah, cette base biblique qui est fondement de la foi juive. Mais ce psaume a sans doute aussi été lu pendant l'exil du peuple à Babylone. Cet exil était un drame qui a privé le peuple des sacrifices au temple. Ce drame, on l'a attribué aux fautes d'Israël, d'où peut-être le verset 8 où on reparle des fautes, et qui a fait de la parole la centralité du culte à la place des sacrifices. J'attends ta parole. Et puis à la fin, dans les deux derniers versets, il est question du rachat. Ça, c'est encore un mot difficile à comprendre pour nous. On peut le traduire aussi par libération. Le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse de la libération. Et au verset suivant, c'est lui qui libère Israël de toutes ses fautes. Alors quand on parle de libération, on pense à la libération du pays d'Égypte, geste fondateur de la première alliance de Dieu avec son peuple. Et finalement, cette sortie d'Égypte pourrait être comprise comme une métaphore pour la libération de tout ce qui enchaîne, aussi bien les fautes que les douleurs, que les souffrances. Et à la fin du psaume, celui qui désire le Seigneur exhorte son peuple « Mets ton espoir dans le Seigneur ». C'est un appel à l'espérance, à une vie qui peut se relever et se remettre en mouvement. Alors il fallait sans doute que le psalmiste prenne le temps de l'appel, de l'attente pour sortir de ses profondeurs. Un temps où son désir a pu s'exprimer et où son espérance a grandi. Son être tout entier a pu faire un chemin. Le chemin d'accepter d'être dans l'épreuve et de savoir qu'il peut en sortir en se tournant vers Dieu avec patience. Alors je me suis posé la question, et nous, dans ce psaume, quels seraient les mots qui nous touchent, où on peut se retrouver? Le psaume montre qu'on peut tout dire à Dieu. Notre désir d'être en sa présence, nos révoltes, nos soulagements, nos supplications, nos colères. Et ce psaume, dans tout le cheminement, eh bien, nous invite à la patience, à la confiance, à l'espérance. Et puis j'aimerais terminer en disant que les profondeurs, eh bien c'est aussi ce lieu en nous qui résiste à la superficialité de la vie du monde. C'est au plus profond de nous que nous pouvons rencontrer Dieu et que Dieu vient à notre rencontre. Et là, nous attend la joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Du ciel, il a répandu le Saint-Esprit sur ton Église, pour allumer dans nos cœurs la flamme de ton amour et y produire des fruits de paix et de joie. Ainsi, la bonne nouvelle de ton salut a retenti jusqu'aux extrémités du monde, et tes enfants, de toute race et de toute langue, sont rassemblés en un seul corps par la puissance de ton esprit d'adoption. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec la glorieuse armée des témoins que tu as revêtus de ta puissance, avec les anges et toutes les armées des cieux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur. Le Seigneur, la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père, nous croyons que ce pain et ce vin sont les signes du repas à venir, que cette nourriture est celle des vivants. Comme tu l'as dit à Nicodème la nuit où il vint te visiter, donne-nous de naître de nouveau au souffle de ton esprit. Par sa présence que nous invoquons, donne à ce repas partagé la saveur de ce banquet du royaume auquel nous convie ton amour. Unis au Christ et dans la communion de tous ceux qui célèbrent la venue de ton esprit, nous prions ensemble ainsi qu'il nous l'a enseigné.
Sur la terre comme au ciel.
voici la table où le ressuscité nous attend. Il envoie sur nous son esprit, il nous invite à partager sa vie. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Venez, tout est prêt. Vous tous qui avez faim d'une vie nouvelle, venez, accueillons sa présence.
Nous allons faire un cercle au niveau de sœur Rebecca, s'il vous plaît.
Thank you.
tous qui avaient et toutes qui avaient été conviées à la table du Seigneur. Allez dans sa paix.
Amen. Amen.
Nous te bénissons, Père très bon, en Jésus ton Fils bien-aimé. Par l'esprit de sagesse qui illumine, conduis-nous dans toute la vérité et fais-nous vivre dans l'amour et la sainteté. Ô toi, qui es béni pour les siècles des siècles.
Amen.
Se fraye un passage dans nos vies pour une autre vie. Que le souffle insaisissable nous fasse toucher aux cieux du dedans et crée en nous des verbes nouveaux. Que le souffle insaisissable soit brûlant d'amitié en terre de solitude et fasse de chacun de nous une Pentecôte inattendue. Lui, l'Esprit du Père et du Fils.
Amen.